Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Éclairage avec un personnage qui va nous éclairer notre vie à la lumière de Montaigne, qui est son maître de vie. Mais il n'y a pas que lui, il y a des maîtres de vie plus contemporains, si je puis dire. Et c'est Jacques Rigaud qui publie le troisième volet, alors j'allais dire de ses mémoires. Jacques Rigaud, bonjour.
Bonjour.
Ce ne sont pas des mémoires.
Surtout pas.
Surtout pas.
J'ai rien à cacher.
Vous n'avez rien à cacher, ni à justifier.
Non. Et ce ne sont pas des mémoires, c'est un peu ce qu'on appelle de l'autofiction. C'est à partir d'un trajet, d'un parcours, d'une expérience personnelle, une réflexion sur la vie, sur la durée vécue, et aussi un témoignage sur ma génération. Cette génération, une des générations de l'entre-deux-guerres, et qui a connu, à l'âge adulte, la deuxième moitié du XXe siècle, les Trente Glorieuses, et qui, encore debout, aborde le troisième millénaire.
Alors, après le bénéfice de l'âge, après Au balcon du temps, voici...
Un balcon sur le temps.
Un balcon sur le temps. On peut couper là, justement, parce que j'ai fait un lapsus. 5, 4, 3... Après le bénéfice de l'âge, après Un balcon sur le temps, voici Vivre à propos, publié chez Grasset. Vivre à propos de quoi ?
Vivre à propos, pas de
tout
quoi,
simplement.
À propos. Et c'est une expression que j'ai empruntée à Montaigne. Si vous le permettez, je vous lirai d'ailleurs tout à l'heure le passage dont j'ai extrait cette très belle expression. Pour tout vous expliquer, le premier des livres que vous avez cité, Le bénéfice de l'âge, je l'ai écrit au moment où j'allais avoir 60 ans. Et je me disais, c'est une étape importante, c'est un moment grave que d'avoir 60 ans. Et en même temps, j'observais que j'abordais ce seuil avec une totale sérénité, sans aucune inquiétude particulière. Et comme Grasset m'avait ouvert un petit peu ses comptoirs, et m'avait incité à écrire chez eux un roman que je me sentais incapable à l'époque d'écrire, je me suis dit que j'allais profiter de cette étape des 60 ans que je vivais dans une sorte de plénitude pour composer une sorte d'hymne à la vie. Je me trouvais moins bête qu'à 50 ans, encore plein de projets, et l'expression tirée du droit électoral, le bénéfice de l'âge, m'est venue, et c'est ça qui m'a déclenché. Et j'ai écrit ce livre. J'en ai écrit un second, Un balcon sur le temps, qui là avait une forme romanesque, où j'ai imaginé une aventure que j'aurais voulu vivre et que je n'avais pas le temps de vivre, qui aurait consisté pour un homme en pleine activité à se retirer, à faire une pause pendant un an, non pas du tout pour apprendre le sanskrit ou aller dans un kibbutz en Israël, mais se retirer en lui-même, dans ce qu'on appelle une chartreuse dans le sud-ouest, une belle maison dans les vignes. Et j'ai imaginé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un qui se trouvait dans cette situation. Et puis, il y a 2-3 ans, j'ai éprouvé le besoin d'écrire à nouveau sur le même thème de l'introspection, avec toutefois la crainte de me répéter. Mais mon objectif était clair. Cet hymne à la vie, cet amour de la vie que j'exhibais aux approches de la soixantaine, je me demandais s'il ne serait pas honnête de se poser la question de savoir si, 15 ans plus tard ou 13 ans plus tard, j'ai maintenant 73 ans, cet hymne à la vie avait encore du sens. Mais j'avais la crainte de me répéter. Et d'ailleurs, les premières tentatives que j'ai faites, je retombais un petit peu dans les mêmes thèmes. Et c'est là que j'ai fait une rencontre avec quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, mais que j'avais un peu perdu de vue, qui est Montaigne. Et j'ai trouvé, par hasard, à l'été 2003, un encadré dans l'Observateur où on citait un texte de Montaigne que je vais me permettre, si vous le voulez bien, je l'ai là.
Allez-y, et j'en ferai la traduction après dans votre propre style.
Voilà ce qu'écrit Montaigne au dernier chapitre du livre 3 des essais, donc le dernier chapitre du dernier livre, qui s'appelle De l'expérience. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues d'une occurrence étrangère quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Nature a maternellement observé cela, que les actions qu'elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent aussi voluptueuses et nous y convient non seulement par la raison, mais aussi par l'appétit. C'est injustice de corrompre ses règles. Nous sommes de grands fous. Il a passé sa vie en oisiveté, disons-nous. Je n'ai rien fait d'aujourd'hui. Quoi ? Avez-vous pas vécu ? C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Si on m'eût mis au propre des grands maniements, j'eusse montré ce que je savais faire. Avez-vous su méditer et manier votre vie ? Vous avez fait la plus grande besogne de toutes. Composer nos mœurs et notre fils, non pas composer les livres et gagner non pas des batailles et provinces, mais l'ordre et tranquillité à notre conduite. Et voilà la phrase. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. Toutes choses, toutes autres choses, régner, thésauriser, bâtir, n'en sont qu'appendicules et adminicules pour le plus. Cette phrase « vivre à propos » a fait tilt dans mon esprit. D'abord, ça veut dire savoir vivre sur le moment, non pas enfoui dans la nostalgie d'un passé révolu, ni éperdu dans une fuite vers un avenir improbable, mais vivre pleinement l'instant, avoir la sagesse de vivre dans le présent, ce qui n'empêche ni la mémoire, ni les projets.
Ce n'est pas non plus carpe diem.
C'est pas non plus le carpe diem. En effet, vous avez raison de le souligner, car on peut donner de cette phrase une acception épicurienne, hédoniste,
superficielle.
L'image qu'on se fait d'ailleurs de Montaigne, qui est une image fausse, du personnage douillet dans sa librairie bien tranquille, alors que c'était un cavalier, un lutteur, un homme qui savait prendre des risques, est une image au contraire très stoïcienne.
Ce n'est pas la frivolité.
C'est pas la frivolité. Mais j'inverse le propos, si j'ose dire. Et pour moi, vivre à propos, c'est aussi le propos de vie. C'est-à-dire, et à l'âge que j'ai, on peut se poser la question, est-ce que ma vie a eu un propos, c'est-à-dire un projet ? Et est-ce que j'ai mené à son terme, et dans la cohérence et la fidélité, ce propos de vie ?
Une cohérence.
Voilà.
Vivre à propos, qu'est-ce au fond ? Et là, c'est vous qui répondez. C'est d'abord se donner tout entier à ce que l'on fait, aimer la vie en chacun de ses instants, faire preuve à son sujet d'esprit d'à propos, l'accueillir et la goûter comme elle vient, inégale, capricieuse, imprévisible, avec ses moments intenses, mais aussi les mornes étalements de son cours, quand il semble que rien ne se passe. Et pourtant, il se passe toujours quelque chose.
Absolument.
C'est un peu le sens que vous donnez à votre vie. Vous avez le sentiment que cette cohérence, elle a été reconstruite a posteriori, ou que le fil de votre vie s'est déroulée dans un flux naturel, qu'elle a toujours été en cohérence, ou bien c'est une cohérence reconstruite et une forme de justification après coup ?
Je n'irai pas jusque-là, mais vous avez raison de poser la question. Même involontairement, on ne peut pas échapper à une espèce de reconstitution, si possible à son avantage, d'un itinéraire. Ma vie, j'ai passé des concours, dans ma vie, mais ma vie est faite de concours et de concours de circonstances.
Ah, le bac à 16 ans quand même.
Oui, mais il y a des quantités. Je ne peux pas dire qu'à 16 ans ou à 18 ans ou à 22 ans, quand je suis sorti de l'ENA, j'allais construire ma carrière comme cela. On m'aurait dit que je serais un jour à la tête d'une radio commerciale. Je ne l'aurais pas cru. Donc il y a toute une série de hasards, d'événements, d'improvisations. Et en même temps, cette cohérence n'est pas fabriquée a posteriori. Elle s'explique à la fois d'abord par une volonté d'agir, par une volonté de laisser une trace, et aussi par un profond engagement qui m'est venu par les circonstances dans le domaine de la culture. Si je suis entré dans le domaine culturel, alors là, pour le coup, c'est pour des raisons de pures circonstances. Les débuts de ma carrière administrative, j'étais au Conseil d'État, je me passionnais pour l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la culture à titre personnel, j'aimais le théâtre, j'aimais les concerts, j'allais voir des expositions.
Mais déjà la ville de Blois.
Oui, déjà la ville de Blois, puisque j'ai, à la demande de Pierre Sudreau, travaillé au premier Son et Lumière et que j'ai compris à ce moment-là que c'était le patrimoine. Mais je n'en ai pas tiré la conclusion que j'allais m'investir dans ces questions-là. Ça a été un moment de ma vie. Jacques Duhamel, auprès de qui je travaillais à titre personnel, devient en 1969 ministre, et ministre non pas des affaires culturelles, mais de l'agriculture. Et il me demande de prendre la direction de son cabinet. Le ministre des Affaires culturelles qui a succédé à Malraux s'appelait Edmond Michelet. Il est mort en septembre 69. Et donc, il a été question de le remplacer. Et Jacques Duhamel a accepté ce poste qui lui a été proposé en janvier... Michelet est mort en septembre 70. Et Duhamel lui a succédé en janvier 71 et m'a demandé naturellement, à ses yeux, de l'accompagner. Et c'est là que je me suis trouvé pour la première fois au ministère des Affaires culturelles, où je n'avais jamais mis les pieds, et que j'ai progressivement compris que les quelques capacités d'administrateur, qu'à tort ou à raison on me reconnaissait, je pouvais les mettre à la disposition de ceux à quoi je croyais le plus, qui est effectivement la culture et les pratiques culturelles. Mais tout ça a été accidentel. Et simplement, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, j'ai dit, eh bien, dans la mesure où je le pourrais, je vais consacrer le reste de mes jours à la culture. Là, il y a eu un acte de volonté. Et ensuite, les circonstances ont servi et à me donner ces possibilités.
Mais alors, RTL, c'est aussi un hasard ?
C'est un hasard. C'est pas un hasard, mais c'est tout à fait curieux. Je n'ai pas du tout été candidat à RTL. C'est en 73, au moment où, après avoir dirigé le cabinet du Hamel, j'ai pendant quelques semaines dirigé celui de Maurice Druon, que j'ai quitté assez vite. Un de mes amis, qui était le numéro 2 de Paris-Bas, m'a demandé si j'étais intéressé par le secteur privé ou si je rentrais au Conseil d'État. Je lui ai dit que je rentrais au Conseil d'État. Et il m'a dit, le secteur privé ne vous intéresse pas. Je lui ai dit, non, pourquoi, me posez-vous la question? Parce que j'ai une idée pour vous. Alors je lui ai dit, toujours. Et il me dit, RTL, vous connaissez? Oui, RTL, oui. Et la CLT? La CL quoi, lui dis-je? Il m'explique ce qu'est la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion. Et il m'explique que le poste d'administrateur délégué va être sans doute prochainement vacant et qu'il me verrait très bien dans ce poste. Et je veux dire que ça m'a intéressé. Ça, c'est pas fait, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer. Et le problème s'est à nouveau posé en 79. Et là, mon nom a été à nouveau prononcé. Et j'ai accepté cette proposition. D'abord parce que l'audiovisuel me passionnait. J'avais failli être le premier président de TF1. Ça ne s'était pas fait par la volonté de M. Giscard d'Estaing. Et tant mieux, sans doute. Et en 1980, ça s'est à nouveau présenté. Et pour répondre à votre question sur l'engagement culturel que ça pouvait être, je ne vous cacherai pas que certains de mes amis ont ironisé en me disant « Ah ah, l'homme de culture qui va dans la radio populaire, comme c'est intéressant ». Et j'ai dit « Vous savez, faire venir 500 personnes un soir d'été à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon pour entendre un concert de polyphonie de la Renaissance anglaise, ça je sais faire. En revanche, apporter à un public dont l'unité de compte est le million d'auditeurs un peu plus que ce qu'il attend, ça c'est rudement compliqué, c'est ça qui m'intéresse. Et pour moi, RTL, même si j'ai dû accepter, et sinon j'aurais pas pris le poste, la logique commerciale, la logique du profit, je me suis dit que c'était une occasion unique d'apporter aux premiers venus, aux gens les plus éloignés des pratiques culturelles, l'envie d'écouter de la musique, d'aller au théâtre, de visiter des monuments et d'aborder les pratiques culturelles. Et je crois qu'on a pu réussir.
Mais êtes-vous affligé aujourd'hui quand vous écoutez la radio, quand vous regardez la télévision? Je parle des médias très grand public, des médias de masse, par le rôle auquel est cantonnée la culture. Estimez-vous qu'il manque aujourd'hui des Malraux et des personnes comme vous?
Alors, il serait très facile de vous faire une réponse simple ou simpliste. Je ne vous ferai pas cette réponse. Bien entendu, je suis affligé d'un certain nombre de choses. Le journal de 20 heures des grandes chaînes de télévision, où je dis souvent que jusqu'à 8h20, vous pouvez vaquer à vos occupations, mettre le couvert, téléphoner, et c'est seulement, sauf événement considérable, qu'à partir de 8h20 que vous entendrez parler de politique internationale ou de politique nationale. Le reste, ce sera des faits divers, une affaire de pédophilie, un autocar qui se renverse, et des faits divers. Je pourrais également vous dire combien je déplore, au risque, là pour le coup, d'être nostalgique, l'époque où, sur les grandes chaînes de télévision, vous aviez M. Jacques Chancel avec le Grand Échiquier, où Bouillon de Culture commençait à 21h30, alors que maintenant, les émissions littéraires sont à 23h, 23h30.
Oui, c'est 20, pour les noctambules. Hein.
24h, etc. Et j'avoue que je ne saurais plus définir ce que c'est que le service public de l'audiovisuel. Ça, c'est... Donc, je peux faire un numéro complet dans ce sens-là. En même temps, je suis quand même amené à constater que l'offre télévisuelle et radiophonique s'est considérablement diversifiée. Et que toute personne qui a le câble ou le satellite, a un magnétoscope, un lecteur de DVD ou de CD-ROM et une radio, n'importe laquelle, peut avoir accès non seulement à des programmes racoleurs, etc., mais tant en télévision qu'en radio, à des émissions de très grande qualité. Que ce soit la chaîne Histoire, la chaîne Odyssée, Mezzo pour la télévision, ou KTO, ou en matière radiophonique, les radios des différentes confessions religieuses comme Radio Notre-Dame, Fréquence Protestante, mais aussi, bon, il y a France Culture, il y a France Musique, qui sont l'honneur du service public, et un certain nombre de radios sur des musiques très spécialisées, les radios universitaires. Maintenant, ce qu'on peut entendre, et vous en êtes un exemple, sur Internet. Donc, il y a une offre qui est quand même beaucoup plus grande. Alors, ça suppose évidemment que le public soit assez mûr pour aller chercher.
Il faut aller chercher.
Mais après tout, on n'est pas obligé d'être complètement passif et d'être victime de la société de consommation.
Mais ça remet quand même en cause l'un des principes fondateurs de l'accès généralisé à la culture, qui est aussi l'unicité de l'offre, puisque l'égalité, c'est aussi l'unicité. La diversité, c'est bien, mais s'il faut aller la chercher, ça veut dire qu'on la réserve quand même à un certain public. Arte n'est pas TF1.
Oui, encore qu'il n'est pas quand même convenaisant, très difficile de trouver Arte, ni dans les journaux de télévision, ni avec sa télécommande. Entendons-nous bien, moi, ce qui m'a passionné à RTL, dont je disais souvent que, comme deux ou trois autres radios, c'était devenu l'un des rares lieux communs de la société, c'est-à-dire un endroit où tout le monde se retrouve, quel que soit l'âge, la condition sociale, les convictions politiques ou religieuses, l'origine géographique, c'est le forum, c'est le marché public. Et donc, il y avait cette possibilité de proposer à quelqu'un qui, a priori, ne sait pas aller chercher une émission musicale ou un concert, de lui dire que c'était aussi pour lui. Je reconnais que la segmentation de l'offre radiophonique ne facilite pas le travail de quelqu'un qui n'a pas les clés ou les modes d'accès à tout cela. Mais ça se répand quand même. Regardez, par exemple, combien Internet s'est développé et répandu. Et au prix d'un petit effort, on arrive à trouver.
Canal Académie.
Et avec nous, Jacques Rigaud pour son ouvrage « Vivre à propos » publié chez Grasset. Alors je vous cite encore Jacques Rigaud. « L'expérience de la vie décantée par la mémoire dépose en nous un trésor de sagesse que nous n'emporterons pas en paradis et dont il est préférable de faire profiter ceux qui nous suivront. Mais faut-il attendre pour transmettre ce trésor d'être en bout de course dans une lugubre lumière de testament ?» Question que vous posez avec une autre réflexion. Vous citez je ne sais plus quelle personne dans votre ouvrage, il s'éloigne du monde et qui s'éloigne de lui aussi. Bon, vous avez ce sentiment de,
c'est la,
de fuite.
Pour être très précis,
vous raccrochez
cette phrase, c'est la fin du portrait du cardinal de Retz par La Rochefoucauld. Je dois dire d'ailleurs que deux des plus grands chefs-d'œuvre de la méchanceté littéraire sont les portraits croisés de La Rochefoucauld par les cardinal de Retz, qui commence par les mots « Il y a toujours eu du je ne sais quoi chez monsieur de La Rochefoucauld » et le portrait de Retz par La Rochefoucauld qui se termine par cette phrase « Il s'éloigne du monde qui s'éloigne de lui ». Je cite cette phrase parce que, effectivement, quand vous arrivez à un certain âge, que vous n'avez plus de responsabilité officielle ou affichée, on peut avoir la tentation de s'éloigner du monde, et on peut aussi constater que le monde s'éloigne de vous, le téléphone sonne moins, si vous n'êtes plus utile aux gens, beaucoup finissent par vous oublier. Et tout homme qui quitte des responsabilités a, et je serais malhonnête si je disais que ce sentiment ne m'a pas atteint, peut avoir la crainte d'être largué, en quelque sorte. Et j'ai éprouvé cette angoisse. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait, ce n'était pas pour ça, d'ailleurs, pour me maintenir en ordre de marche et disponible, mais, comme de toute manière, il y a un moment où le monde s'éloigne complètement de nous, ça s'appelle la mort. Mais il y a une petite mort qui précède.
On la ressent, cette petite mort ? À quel moment ? Au moment du pot d'adieu ? En entreprise ? Au moment...
Non,
de la perte de proches.
Pas au moment du pot d'adieu, mais dans les moments qui suivent immédiatement le départ. Quand que vous ayez été ministre, président de société, ou évêque, ou n'importe quelle situation, que vous êtes dans un poste de responsabilité exposé, le mandat s'arrête, vous êtes chassé, ou on vous fait un pot d'adieu, et ben vous vous retrouvez chez vous. Et même si vous avez tout planifié, tout organisé, etc., il y a un moment... pas nécessairement très long.
Vous n'êtes plus rien.
Ou le téléphone ne sonne plus. Et quand on pense à ce qu'est la vie de tous ces hommes ou femmes qui exercent des responsabilités, qui sont harcelés à tout moment, sollicités contre un emploi du temps d'enfer, des voyages, des choses à préparer, et que paf, tout ça s'arrête d'un coup, il y a un moment de vertige.
Presque un traumatisme.
Oui. Alors moi, j'ai eu la chance, et je l'ai un peu voulu, de faire coïncider ce moment avec la période des vacances. J'ai quitté RTL le 30 juin 2000. Et comme de toute manière, j'aime beaucoup les vacances, j'avais beaucoup de choses à faire, y compris m'initier à l'ordinateur. J'ai eu 3 mois avant de retrouver et d'organiser un rythme de vie très différent. Mais je me souviens des quelques jours où j'étais encore à Paris qui ont suivi mon départ de RTL, c'est-à-dire j'avais plus la voiture, j'avais plus le chauffeur, j'avais plus la secrétaire, j'ai pris ma carte orange et j'ai commencé à circuler. Et je me suis rendu compte qu'entre deux rendez-vous, ben, je savais pas quoi faire. Quand j'avais 2 rendez-vous à Paris, mon chauffeur venait me chercher, je rentrais RTL fût-ce pour 1 quart d'heure, je consultais des papiers. Et là, qu'est-ce que vous faites quand vous avez rendez-vous à 3h, puis le suivant à 5h30 et que vous avez 1 heure de battement ? Ben on va dans un café, on prend un verre, on lit le journal.
Vous écoutez la radio ?
On écoute la radio. C'est un sentiment très très curieux. Et moi je me mets, on le voit tout le temps. Moi, je vois par exemple, j'avais des gens que j'aimais bien, comme Michel Barnier, dans le précédent gouvernement, qui ont été virés en 2 coups de cuillère à peau. J'ai pensé, non pas à l'avenir de leur carrière, mais à ce moment très précis où vous passez de la suractivité à une apparente vacance, en quelque sorte.
Alors, Jacques Rigaud, vous l'écrivez. Je cherche moins à tracer mon portrait qu'à aider mes semblables à se définir et à se situer eux-mêmes. Alors précisément, en cette période délicate, de jonction entre 2 formes d'existence, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil, comme recette pour vivre à propos, pour rester en cohérence avec eux-mêmes et ne pas déprimer ? Allez, le mot est lâché.
Bien sûr. D'abord, dans toute la mesure où c'est possible, parce qu'il y a des cas où ce genre de rupture se produit inopinément, sans l'avoir prévu, remaniement ministériel, coup d'État dans une entreprise, etc. Dans toute la mesure du possible, préparer ça longtemps à l'avance. Moi, j'ai eu la chance de choisir, je n'étais pas l'objet d'une limite d'âge, puisque la mienne était à 88 ans d'après les statuts, ce qui me donnait encore pas mal d'années. J'ai eu la chance de pouvoir choisir le moment de mon départ, et de le prévoir 2 ans à l'avance, donc avoir le temps de m'organiser.
Ce qui est un luxe.
C'est un luxe, en tout cas un privilège. Mais c'est pas toujours possible. Mais je suis quand même frappé de voir que, un peu comme la mort, c'est une échéance tellement grave qu'on a plutôt tendance à ne pas y penser. Donc dans toute la mesure du possible, organiser cela, soit en faisant quelque chose de complètement différent de ce que l'on a fait précédemment, soit en trouvant un moyen, sans encombrer ses successeurs, de rester dans la même spécialité à un autre titre, soit quand on a eu la chance ou la volonté, ce qui est manquant en tout cas pour la chance, de pouvoir exercer parallèlement à son activité professionnelle d'autres responsabilités. Moi, quand je suis entré à RTL, j'avais déjà quelques engagements culturels et je me suis fait à moi-même le pari de poursuivre parallèlement ces engagements culturels. Et j'ai eu la chance d'avoir des actionnaires assez intelligents pour comprendre que c'était aussi l'intérêt de l'entreprise. Donc pour moi, c'était clair, ces engagements culturels qui étaient marginaux allaient prendre la totalité de mon temps. Mais il faut, à mon avis, non pas, ce qui peut être la tentation humaine la plus compréhensible, dire « ouf, on s'arrête, je vais rien faire pendant quelque temps ». Ça, c'est très dangereux. Parce que ou bien on s'ennuie très vite et on s'affole, et à ce moment-là on fait n'importe quoi, soit on s'accoutume à ne rien faire et à, ensuite il est très difficile de reprendre.
De remonter de cheval.
Et moi, mon conseil, c'est de réfléchir à ce qui peut justement donner cohérence à sa vie, non pas en faisant la même chose, mais en faisant soit des choses complètement différentes, soit dans les mêmes spécialités, mais autrement, et en donnant de toute manière une part de son temps à ce qui est gratuit, ce qui est bénévole. Moi, une des choses qui me plaisent le plus dans mon existence actuelle, c'est que beaucoup des activités que je mène étant bénévoles, en tout cas non rémunérées, il y a une déconnexion qui s'opère entre le travail et la rémunération qui me paraît hautement gratifiante et stimulante, si vous voulez. Parce que même quand on travaille autrement qu'un salarié à la chaîne, on lie nécessairement le travail et l'argent. Eh bien, il y a du travail, c'est même plus du travail. C'est de l'engagement, c'est de l'effort. Sans recherche de quelque rémunération que ce soit, qui est quand même une manière de s'épanouir.
Vous avez prononcé le mot « statut ». Et il y a une phrase qui vous a servi dans votre existence. Il faut toujours être supérieur à son statut.
Oui, plus exactement, la phrase que je cite...
Si je la restitue à peu près bien.
Supérieur à son état.
À son état. À son pas état. Le statut que vous...
Non, d'accord. Non, c'est un statut. C'est un avocat, père d'un de mes camarades de Sciences Po, que j'ai rencontré dans l'avion de Brazzaville en 52. J'avais 20 ans. Il m'a parlé, il m'a fait parler de moi. Il a eu cette phrase qui n'était pas du tout sentencieuse dans son esprit, mais elle m'est toujours restée. Il faut toujours être supérieur à son état. Montaigne dit d'ailleurs à peu près la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas être prisonnier des grandeurs d'établissement, que même si on est dans une position sociale, politique, enviée et enviable, compte tenu des pouvoirs, du prestige, etc., il faut dominer ça. Savoir d'abord qu'on n'est pas propriétaire de sa charge, sauf quand on est propriétaire de son entreprise, et encore, qu'on n'est pas propriétaire de sa charge, qu'on est un serviteur. Le pape lui-même est le serviteur des serviteurs de Dieu, c'est un bon exemple. Et que par conséquent, il ne faut pas être l'esclave de sa possession. Être toujours, garder une distance.
Comme dit Montaigne, la liberté, la vraie liberté...
C'est pouvoir toute chose sur soi.
Donc c'est une forme de liberté de ne pas être esclave du système.
Absolument.
Une vraie leçon de vie.
Et donc d'exister par soi-même, et quand on n'a plus de titre, de position, ne pas croire qu'on n'existe plus, on existe encore au-delà de l'état qu'on avait, qui vous avait défini.
Ça demande quand même une certaine force d'âme.
C'est pas interdit, vous savez, pour bien vivre, que d'avoir une certaine force d'âme. C'est même plutôt conseillé.
Vous en avez croisé beaucoup, des gens comme ça ?
Oui. Sinon, je n'aurais pas moi-même tenté de les égaler ou de les copier.
Alors, on va revenir, parce que j'aimerais que vous nous en parliez, de ces personnes que vous qualifiez de maîtres de vie, que vous avez croisées dans votre existence, qu'on dresse un petit peu leur portrait et ce en quoi elles vous ont marqué, et les points saillants que l'on peut faire émerger, et puis les valeurs universelles dont ces personnes sont porteuses.
Je dois dire que c'est peut-être le chapitre que j'ai eu le plus plaisir à écrire, parce que j'ai eu l'impression de payer une dette de reconnaissance. Dans ce chapitre, je dis que j'ai eu à l'école, que ce soit dans l'enseignement primaire et secondaire, et à l'université, à Sciences Po, à l'ENA, des maîtres, au sens enseignant du terme, qui étaient remarquables. Et j'en cite quelques-uns. Mais ce n'est pas de ceux-là que je parle. Ce sont d'hommes, Il se trouve que ce sont des hommes, ça aurait pu être des femmes, qui ont beaucoup marqué dans ma vie et avec qui j'ai une relation qui, même si elle a été un moment professionnelle, est devenue très vite une relation d'amitié. Alors j'en ai isolé quatre. Pierre Sudreau, Jacques Maillet, Jean Ribou et Pierre Soulages, dans des genres très différents. Pierre Sudreau était le préfet auprès de qui j'ai fait mon stage de première année d'école d'administration à Blois en 1952. J'étais le plus jeune élève entré à l'école depuis sa création, puisque j'avais à peine 20 ans. Et Pierre Sudreau était le plus jeune préfet de France, puisqu'il avait à l'époque, tenez-vous bien, 32 ans. Né en 1919, préparant l'inspection des finances tout en faisant de la résistance, il a été arrêté, torturé, déporté à Buchenwald. Il est rentré dans l'état que vous imaginez, ayant 26 ans, des camps de déportation. Et il a été très vite préfet, donc il était extraordinairement précoce. Et donc, on m'a confié à lui pour ce stage. Ensuite, je l'ai retrouvé au cabinet d'Edgar Faure en 1955, pendant que je faisais mon service militaire à Matignon. Puis, lorsqu'il est devenu ministre du général de Gaulle de la construction en 1958-59, et depuis une relation quasi filiale, et en tout cas très amicale, s'est nouée avec lui. Et il est encore, Dieu merci, de ce monde. J'ai préfacé un livre qui lui est consacré l'année dernière et j'ai encore déjeuné avec lui il y a une dizaine de jours. Il m'a appris la résistance, la déportation, encore qu'il fût comme beaucoup très laconique sur ce sujet, le service de l'État, la République, et la relation de confiance que j'ai avec lui dès mon jeune âge a été capitale. Jacques Maillet, grand résistant lui aussi, que j'ai rencontré dans la famille de ma femme, qui avait lui aussi 20 ans de plus que moi, un peu plus âgé que Pierre Sudreau, qui est encore de ce monde lui aussi.
Ils sont tous plus âgés, hein ?
Tous plus âgés, mais absolument, par définir les maîtres.
Oui.
Bon, a fait de la résistance, a été un grand industriel, et la manière dont il a su maintenir une vie familiale personnelle, sans aucun apparat, avec une intense curiosité d'esprit et une grande gentillesse, tout ça m'a beaucoup marqué. Jean Ribou, président de Schlumberger, à la tête d'une des plus grandes entreprises mondiales, qui était actionnaire de la CLT, avec qui j'ai noué une relation personnelle au-delà du rapport d'actionnaire à mandataire social, homme très cultivé, très profond, lui aussi ancien déporté, a été pour moi un modèle, un exemple de vie épanouie, assurée, réussie et parfaitement équilibrée.
Jacques Rigaud, on fait un point, on marque une pause, on revient à Jean Ribou dans un instant.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements, c'est un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Vivre à propos avec Jacques Rigaud, notre invité. Jacques Rigaud, ancien PDG de RTL, homme de lettres. Alors je n'ose pas employer le terme puisque le terme est proscrit, ce ne sont pas des mémoires, c'est la trilogie d'une vision de sa vie autobiographique. Et nous parlons de vos maîtres de vie. Et Jean Rigaud, alors je cite ce passage parce que moi il m'a beaucoup ému sur la fragilité du bonheur. C'est ce que vous dites. C'est peut-être là que j'ai pris le plus fortement conscience de la fragilité du bonheur. J'y pense souvent quand, au Pila, les soirs d'été sous la véranda, nous contemplons, en écoutant une sonate de Schubert, le coucher du soleil sur l'océan. Un verre de sauterne en main, en famille, avec des amis, les enfants courant dans le jardin. Le temps semble alors suspendu et ne porter que des promesses de bonheur. C'est alors qu'il convient plus que jamais de vivre à propos, tant le bonheur est fragile. Je n'aurais ainsi jamais imaginé qu'un an après mon dernier séjour à La Carrelle, là où vous alliez avec Jean Ribou ne serait plus emporté par un cancer du poumon et que son fils mourrait accidentellement peu après. C'est beaucoup d'amertume, hein, aussi de regrets, de souffrance. Hein.
Pas d'amertume, c'est un état d'esprit qui m'est assez étranger. Beaucoup de mélancolie, disons.
De mélancolie, c'est plus précis.
Beaucoup de mélancolie, car effectivement, Jean Ribou, qui était l'image même de la réussite humaine et pas seulement professionnelle, avec son épouse indienne qui était la nièce de Rabindranath Tagore, qui avait cette merveilleuse propriété en Beaujolais, où il était un peu le patriarche avec ses enfants, ses petits-enfants, un bonheur complet. Et que tout ça se soit défait, que lui-même ait été rattrapé par un cancer, j'ai assisté à certains des derniers moments de sa vie, et que tout ça, avec la mort accidentelle de son fils, se soit complètement défait, ça m'a profondément marqué. Et c'est vrai que le bonheur, c'est souvent après qu'on le perçoit, c'est pendant. C'est vivre à propos, justement.
Donc ça veut dire vraiment mesurer que le présent se vit uniquement dans le présent, que le bonheur, c'est l'instant.
C'est l'instant. Et quand on est croyant, rendre grâce.
Et rendre grâce. On parlera tout à l'heure de votre foi.
Et alors le dernier...
Pierre Soulages.
Pierre Soulages. Bon, Pierre Soulages est le grand peintre que l'on sait. J'ai la chance de le connaître depuis de longues années, d'avoir avec lui une relation de confiance et, je crois, d'amitié. Et je dois dire que, notamment dans sa maison de Sète, sur le Mont Saint-Clair, maison mitoyenne du fameux cimetière marin où est enterré Paul Valéry, le faire parler de l'art, de la peinture, de la vie, cet homme qui n'est pas simplement un peintre, mais qui est un sage, très cultivé, lisant beaucoup, réfléchissant sur des quantités de sujets, ayant sur la matière, sur toute matière, moi je me souviens d'avoir fait le marché à Sète avec lui, et la manière dont il palpait les poissons, dont il les décrivait, avec un regard d'artiste, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il m'a appris sur l'art, sur la peinture, sur la création, beaucoup de choses, et je cite dans le livre cette phrase, qui est pour moi une phrase majeure, « La peinture, ça ne se regarde pas, ça se fréquente. »
Ça se fréquente.
Et la fréquentation des œuvres, c'est pour moi... la clé d'une vraie pratique culturelle, c'est-à-dire avoir avec les œuvres un rapport comme on a avec une personne. La fréquentation, quand on parle de fréquenter, on pense aux gens. Et moi, je dis souvent qu'il y a des tableaux...
Les gens se regardent aussi.
Les gens se regardent et puis ils se disent des choses. Et il y a des choses qu'on ne se dit pas, mais qu'on sent ensemble. Et c'est ça qui est tout à fait important. Moi, il y a des tableaux à Vienne, à Londres, à Paris et dans d'autres lieux que je vais voir... comme on va visiter quelqu'un qu'on aime bien. Et j'ai des choses à leur dire, et eux aussi, ces tableaux, ont des choses à me dire, et c'est jamais les mêmes. Une espèce de rapport personnel, en effet.
On accède comme ça à la connaissance de l'art ou à la fréquentation intime des œuvres, ou faut-il être quelque peu initié ?
Non, ça vient tout seul dès lors qu'on est attentif. Moi, je pose la question à tous ceux qui nous écoutent. Tel livre qu'on a lu à 20 ans, moi je pense par exemple à La recherche du temps perdu, si vous la relisez à 40 ans ou à 60 ans, vous avez l'impression de lire un autre livre. Telle œuvre de musique que vous aimez, une symphonie de Schubert, un concerto de Mozart, qui vous a enchanté lorsque vous l'avez découvert, et que vous le réécoutez 15 ou 20 ans plus tard, et j'en dirai autant d'un opéra, vous le voyez autrement.
On est la même personne, mais on n'est pas le même homme.
Absolument. Parce que, nourri par l'expérience, par d'autres souvenirs, d'autres émotions, on revisite ses œuvres autrement. Et c'est ça qui fait... Et donc, ce n'est pas une question de culture, de formation, d'érudition, etc. C'est, encore une fois, à la portée de toute personne qui veut bien, non pas simplement voir, mais regarder, non pas simplement entendre, mais écouter... Non pas seulement lire, mais comprendre.
Jacques Rigaud, ses maîtres de vie, Pierre Sudreau, Jacques Maillet, Jean Ribou, Pierre Soulages, sont-ils reliés d'une manière ou d'une autre à Montaigne ?
Il y en a deux qui le sont expressément. C'est Pierre Soulages, qui, bien entendu, à chacun de ces hommes, j'ai envoyé le chapitre... où je parle d'eux, parce que je voulais les en informer, je voulais que rien ne les choque. Et Pierre Soulages m'a rappelé une histoire que, du coup, j'ai reprise dans le livre sur Montaigne et la peinture.
Un essai assez méconnu.
Absolument. Un passage que j'ignorais d'ailleurs complètement.
Alors que vous avez les essais en je ne sais combien de
sept éditions différentes. Pierre Sudreau, dans un livre, un petit livre qu'il vient de me donner, qu'il a écrit il y a quelques années, cite lui-même Montaigne. Jean Ribouche, je ne sais pas s'il a vu une relation avec Montaigne, et Jacques Maillet, pas davantage. Mais il y a quand même ça.
Et dans leur vie ? Ils dans vivaient leur vie, à propos ?
Tout à fait. Tout à fait. Alors là, pour le coup, à la fois leur art de vivre, d'être supérieur à leur état, de ne pas être dupe des grandeurs d'établissement, de savoir s'engager et, au risque de leur vie, pour, pratiquement pour les quatre, moins pour Soulage que pour les trois autres. Ça, c'est tout à fait dans la ligne de Montaigne. Et puis j'ajouterais autre chose qui les unit dans mon esprit, c'est leur disponibilité d'esprit et leur bonne disposition à l'égard de gens plus jeunes, ce qui était mon cas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me sens tenu d'avoir la même attitude, moi j'espère, que celle qu'ils ont eue à mon égard, envers quelques cadets auxquels j'essaye d'apporter un peu de ce que j'ai reçu de ces aînés.
Justement, alors, votre attitude envers vos enfants, vos petits-enfants, c'est plus facile envers les petits-enfants qu'envers les enfants?
Bah d'abord, ce qui est plus facile, c'est qu'on ne les a pas sur le dos tout le temps.
Déjà.
On n'a pas la charge. Moi, je dois dire que avec ma femme, j'ai pris ma part de la responsabilité paternelle, mais quand on voit avec le recul ce que ça représente, quand vous avez des enfants petits dont il faut s'occuper ou faire en sorte qu'on s'occupe d'eux à tout moment du jour et de la nuit, les nuits sans sommeil, les maladies, les soins qu'on a, c'est quand on a passé l'âge d'être soi-même père ou mère, on se dit que c'est quand même une GN. Hein. Et même quand, pour notre bonheur, nous les avons en vacances, sans les parents, etc., quand ils s'en vont, on pousse un soupir de soulagement parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, on n'a pas cette charge quotidienne avec sa part de servitude. En même temps, on est plus malin, on a plus de recul et on s'attendrit davantage. On se souvient de nos propres enfants et le rapport privilégié qu'on peut avoir avec ses petits-enfants, ce qu'on peut leur faire découvrir, ce qu'on peut représenter pour eux, c'est un des plus beaux moments de la vie, incontestablement.
Et comment vous y prenez-vous ?
Ben, je m'y prends comme je peux et pas nécessairement bien. Il se trouve que deux de mes enfants sont dans la région parisienne, mais je trouve que je ne les vois pas beaucoup ou pas suffisamment. Alors on les a pendant les périodes de vacances et j'essaye de prendre un peu de temps pour maintenir un contact régulier. Mais ce que je fais et ce que je ferai de plus en plus, c'est d'abord les emmener au théâtre ou au concert. Ce que j'ai fait avec l'aîné de mes petits-enfants qui a maintenant 15 ans. Et ce que j'ai fait avec mes enfants et ce que je compte bien refaire tant que Dieu me prêtera vie, c'est les emmener en voyage.
Ah oui.
Bon, nous avons fait des voyages avec tous mes enfants en Italie notamment. Mais j'ai veillé à emmener un de mes fils en voyage quand il avait 15-16 ans. Je me souviens, avec l'aîné, nous sommes allés à Londres, nous sommes allés à Berlin. Quand il avait 14-15 ans, il a vu le rideau de fer, le Checkpoint Charlie en pleine nuit. Je l'ai emmené aussi à un colloque à Munich. Et là, je cherche désespérément dans mes archives une photo dans un dîner, dans un restaurant avec Monseigneur Ratzinger, qui n'était pas encore ni cardinal ni pape.
Là, une photo qui compte. Hein.
Et c'est une photo qui compte, mais j'arrive pas à la retrouver. De même, mon second fils ou ma fille, je les ai emmenés à Rome, etc. Et maintenant, je fais ça avec mon petit-fils. Et je parle dans le livre d'un voyage que j'ai fait l'année dernière avec mon petit-fils à Rome. Et je vais l'emmener à Londres, à la Toussaint. Et il va passer, comme maintenant depuis 3 ans, 10 jours avec moi à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon à la période du festival.
Alors bien sûr, ces voyages sont l'occasion de mieux se connaître. L'expression est malencontreuse, faire passer un message, mais transmettre quelque chose.
Bien sûr, bien sûr.
Mais sans faire la leçon.
Voilà.
C'est difficile ça quand même.
Oui, mais c'est une question de tact et d'expérience. Il faut bien se garder de passer pour un professeur, de les sermonner. Et vous savez, les leçons qui passent le mieux, sont celles qui ne sont pas dictées, mais qui sont des témoignages. Il y a une certaine manière de se comporter, de regarder les choses, de regarder les gens, de parler devant les enfants et pas nécessairement aux enfants. Moi, je sais combien un enfant peut s'imprégner de choses qu'il entend à la table de famille ou dans une conversation d'amis, et que ce soit sur le fond ou sur les mots ou la manière de parler.
Un point capital.
C'est capital, ça. Je dirais, à la limite, on enseigne d'autant plus qu'on n'a pas le propos délibéré d'enseigner. Mais qu'on essaye... Je vais vous donner un exemple.
On enseigne ce que l'on est, d'abord.
Voilà. Il y a 2 ans ou 3 ans, c'était la première fois qu'il venait à la Chartreuse, mon petit-fils Jules, il avait 12 ans à l'époque. Je constate qu'à Villeneuve-les-Avignon, pas chez nous à la Chartreuse, mais dans la ville, il y a un spectacle sous chapiteau Macbeth de Shakespeare, par une troupe de théâtre équestre, qui n'était pas Zingaro, mais une troupe de théâtre équestre. Et je me dis, au fond, ce gosse de 12 ans, Shakespeare, ça ne lui dit rien. Quelle bonne initiation que de voir une Macbeth dans une version simplifiée en théâtre équestre. Le gosse a été fasciné par la représentation, passionné, et à la fin, je n'ai pas fait un cours, mais il dit, mais alors Shakespeare, je ne comprends pas, parce que c'est marrant, c'est tragique, c'est poétique, c'est comique, c'est... Et je dis, mais t'as tout compris. Shakespeare, c'est ça. C'est ce mélange. Je me serais efforcé avant le spectacle, lui, alors tu vas voir Shakespeare, c'est pas comme Molière, c'est pas comme Corneille, j'aurais fait un cours. Il n'aurait pas compris aussi spontanément l'essence même, baroque, de Shakespeare. Et de même, je lui ai fait à Rome mon itinéraire Caravage, car j'ai un itinéraire à moi sur les tableaux de Caravage, qui sont pas seulement dans les musées, mais dans toute une série d'églises, etc. Et je me fais fort de faire une promenade d'une journée dans Rome, en allant d'un Caravage à l'autre. Et c'est le jeu de piste que j'ai joué avec mon petit-fils. Et bon, il ne sait pas grand-chose sur Titien ou sur Botticelli, mais Caravage, il connaît.
Eh bien oui, nous vivons à propos avec Jacques Rigaud, son ouvrage publié chez Grasset après Le bénéfice de l'âge, après Au balcon sur le temps. Eh bien, vivre à propos, sous la lumière de Montaigne, sous la lumière aussi de votre expérience et de toutes vos réflexions que l'on peut retrouver dans cet ouvrage. On a parlé aussi de vos maîtres de vie il y a quelques instants. Mais alors, Jacques Duhamel, où le mettez-vous ?
Alors, évidemment, mon premier maître de vie, c'est Jacques Duhamel, à la fois parce que je l'ai connu et pratiqué pendant plus de 20 ans de mon existence, de 1955 à sa mort en 1977, qu'à titre personnel et officieux, j'ai travaillé pour lui, homme politique, pendant toutes les années 60, et que j'ai été son seul directeur de cabinet pendant 4 ans, au ministère de l'Agriculture, puis au ministère des Affaires culturelles, et que j'ai essayé de l'accompagner dans les épreuves douloureuses de sa santé jusqu'à sa mort 4 ans plus tard. Mais j'ai aussi vécu, pendant les 4 années où il était ministre, le double calvaire qui a représenté la mort accidentelle de son fils aîné et la découverte d'une maladie très rare et non guérissable qui l'a frappé ou qui s'est révélée au moment même où il devenait ministre. Et donc, j'étais son collaborateur et son plus proche ami pendant 4 années qui ont été à la fois brillantes et, sur le plan personnel, terribles. La relation que j'avais avec lui était une relation très forte. Et d'ailleurs, il est présent, je dirais, dans tout mon livre.
C'est pour ça que vous n'avez pas fait un portrait en tant que tel.
Exactement. Et d'autant plus que par rapport aux quatre personnes que j'ai citées et qui sont tous actuellement octo ou nonagénaires, Jacques Duhamel n'a jamais que 8 ans de plus que moi. Il était de 1924, moi je suis de 1932. Il était évidemment de la génération de la résistance, donc il y a ce décalage sensible entre nous, mais ma relation avec lui était beaucoup plus fraternelle que filiale. Mais évidemment, c'est lui qui m'a le plus profondément marqué, et c'est souvent à lui que, dans un dialogue secret, je me réfère.
Alors Jacques Rigaud, j'aimerais, pour le temps qui nous reste, que l'on aborde deux aspects de vos réflexions. D'abord sur le siècle qui s'est écoulé, puisque vous vous reconnaissez comme étant un homme du 20e siècle, hein, tout simplement. On ne peut pas échapper à son siècle, hein, vous l'écrivez vous-même. Et puis sur la foi, sur votre questionnement religieux. Alors par quoi voulez-vous commencer ? Est-ce qu'il y aura un ordre, d'ailleurs ? Le passé, on peut supposer que c'est le 20e, et puis la foi, c'est l'espérance aussi.
Liquidons le siècle.
Liquidons le siècle.
Écoutez, je suis effectivement un homme du XXe siècle. Je suis né en 1932, donc j'ai vécu les deux derniers tiers de ce siècle, que j'ai vu partir sans grand regret en 2000 ou en 2001, comme on voudra. C'est un siècle extraordinaire, à beaucoup d'égards glorieux, quand vous imaginez les progrès scientifiques, techniques et dans beaucoup d'ordres qui ont eu lieu au cours de ce siècle, que vous voyez de simples images des locomotives du début du siècle aux satellites de la fin du siècle, l'informatique, enfin tout ce qui est né, je vais pas, les progrès dans le domaine de la santé, de la médecine, dans la démocratie quand même, etc. Donc on pourrait faire l'éloge du XXe siècle, et en même temps, il est le plus odieux, le plus atroce. Le stalinisme et plus encore le nazisme, la Shoah, ce sacrifice avec un grand S d'une catégorie de nos frères humains, etc. La prétention de ce siècle, ce qu'il a pu avoir d'odieux, il y a à la fois le pire et le meilleur. Et en même temps, nous ne pouvons pas ne pas en être solidaires. Parce que nous avons vécu tout cela. Il ne s'agit pas de se sentir responsable. Moi, étant donné mon âge, j'ai aucune responsabilité dans l'effondrement de la Troisième République et dans la compromission de certains avec l'occupant allemand. Mais quand les aînés n'y seront plus, c'est à nous qu'on demandera des comptes. Non pas pour nous accuser, mais pour nous demander d'expliquer comment le pays de Goethe, à Weimar, a pu construire à quelques kilomètres de Weimar le camp de Buchenwald. Sans parler d'Achaux et d'Auschwitz, n'est-ce pas, et tout ce qui a pu se passer d'odieux. Donc nous sommes nécessairement solidaires de ce siècle. Et je dois dire que la manière dont nous abordons le XXIe siècle me fait très peur. J'observe dans ce livre que, venant d'un milieu modeste, je crois pouvoir affirmer, sans preuve, mais ça me paraît évident, que depuis, disons, au moins la Révolution, chaque génération de mes ancêtres, maçons de village en Lot-et-Garonne ou quincaillers en Puisaye, avait la conviction que la génération suivante vivrait mieux. Et d'une génération à l'autre, ça s'est vérifié. Moi qui vous parle, j'ose espérer que mes enfants et mes petits-enfants vivront à peu près aussi bien que moi. Bon, s'ils pouvaient vivre mieux, tant mieux. Mais j'en suis pas sûr. Et je crois qu'à la racine de toutes les peurs, frilosités, blocages de notre société, il y a cette perte de confiance en l'avenir qui a caractérisé l'humanité depuis le XVIe siècle.
Alors ça, c'est une leçon assez rude de ce XXe siècle.
Oui,
ce sentiment que ce XXe siècle débouche sur l'incertitude la plus complète.
Absolument.
Mais qui est aussi le champ de tous les possibles, après tout.
Oui, mais y compris des incertitudes qui portent sur la survie même de la planète. Je ne suis pas un écologiste fanatique, et l'histoire de la couche d'ozone, etc., je n'y crois pas nécessairement, mais enfin, c'est vrai que se posent des problèmes qui sont plus seulement ceux d'un continent, d'une société ou d'une religion, mais les problèmes de l'espèce et les problèmes de l'univers. vivre à l'ombre de son clocher n'est plus possible. La mondialisation, ce n'est pas simplement la mondialisation de l'économie, c'est la mondialisation de la vie. De la vie, regardez ces pandémies qui sont bien autre chose que les pestes ou tuberculose du passé.
Alors un dernier mot, Jacques Rigaud, j'aimerais que vous nous expliquiez cette distinction que vous faites entre l'énigme et le mystère au sens chrétien du terme. Vous ne confondez pas l'énigme et le mystère. On terminera sur cette note qui nous emmène vers l'au-delà.
Oui, l'énigme... Bon, la vie est pleine d'énigmes. Et d'ailleurs, l'art est plein d'énigmes. Les plus belles pièces de théâtre, les plus beaux romans sont des énigmes. Hamlet est une énigme. Le misanthrope, en dépit de toutes les explications qu'on ait pu donner, c'est une énigme. Le rapport entre Tartuffe et Orgon a quelque chose d'énigmatique. La flûte enchantée, au-delà de l'anecdote, c'est une énigme. Don Juan, qu'est-ce qui fait courir Don Juan ? De quoi a-t-il peur ? À quoi craint-il ? Ce sont des énigmes. La vie, donc, est pleine d'énigmes. Le mystère, c'est autre chose. L'énigme, on peut la déchiffrer, ou bon, le mystère nous dépasse par définition. Et quand je parle de mystère, je parle des mystères de la foi, la mienne, la foi chrétienne. Prenez par exemple, d'abord l'au-delà. Nous ne pouvons absolument pas le concevoir. Simone Veil, la philosophe, posait la question de savoir si, dans la vie éternelle, il y avait quelque chose de personnel. En d'autres termes, est-ce qu'on retrouve, et nous, dans les moments de malheur, quand quelqu'un de très cher nous quitte, nous avons humainement l'espérance de le retrouver là-haut, mais on ne sait pas du tout comment on le retrouvera. Moi, je ne me vois pas avec mes parents là-haut se dire qu'est-ce qu'on fait dimanche après-midi. Et donc, est-ce qu'on devient des abstractions ou est-ce qu'il y a encore un côté personnel ? Est-ce que je reverrai le regard, d'une manière ou d'une autre, le regard de ma mère ? Est-ce que je sentirai sa main sur mon front ou tel de mes amis qui est mort ? On n'en sait rien. Le mystère de la communion des saints, que je serais incapable d'expliquer, mais où je sens qu'il y a ce cycle indéfini de prière et d'amour entre toutes les générations et à l'intérieur des vivants, entre ces moines qui prient pour moi et moi qui me renforce de leur prière. Bon, le mystère de l'incarnation, cette intervention que nous prêtons à Dieu dans l'histoire humaine. Pourquoi est-ce qu'il a fait naître le Christ à ce moment-là de l'histoire humaine ? Et d'ailleurs, c'était bien vu parce qu'il l'a fait naître...
Il n'y avait pas RTL à l'époque, et heureusement peut-être.
Oui, mais il l'a fait naître là, à un moment où l'Empire romain donnait une grande possibilité d'extension. Ce mystère de l'incarnation en tant que telle, que cette intervention pour une fois, je ne parle pas des miracles, de Dieu dans l'histoire humaine, c'est... Et donc, ces mystères me dépassent et je ne cherche pas à en être l'organisateur, comme disait Cocteau, mais je les admire et même le défi qu'ils représentent pour mon intelligence, pour ma raison, est une des raisons de l'attachement que j'ai pour eux.
Merci beaucoup Jacques Rigaud. Merci d'avoir été avec nous. Vivre à propos, publié chez Grasset.